matin, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h32 sur Europe 1. Marine Le Pen est l'invitée exceptionnelle d'Europe Matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint pour poursuivre cet entretien. Mathieu Bock-Côté, je vous cède la première question à Marine Le Pen que vous souhaitiez interroger sur de nombreux sujets, notamment Éric Zemmour, vous souhaitiez revenir.
Si vous me permettez juste une petite rectification, puisque nous avons vérifié pendant la pause, le premier pass sanitaire, nous avons bien voté contre. Les deux députés du Rassemblement National qui étaient présents dans l'hémicycle se sont évidemment opposés au pass sanitaire. Monsieur Bock-Côté, je suis à vous, si
alors,
je puis me permettre.
Marine Le Pen, Éric Zemmour, puisque son nom est évoqué, affirme et répète que la question de l'immigration est la question la plus importante, la question centrale, celle qui déclasse, à certains égards, toutes les autres dans le cadre de cette élection et même pour l'avenir de la France. Est-ce que vous partagez ce constat comme quoi la question de l'immigration est la plus importante parmi toutes?
Jamais je ne pensais qu'un jour on me poserait cette question-là.
Et pourtant vous
savez, je préside un mouvement depuis 10 ans maintenant, mais ce mouvement a 50 ans. La première campagne qui a été faite par ce mouvement il y a 50 ans, c'était précisément de dire aux Français, attention, la manière dont est utilisée l'immigration va entraîner le chaos dans notre pays. Et nous n'avons eu de cesse, depuis 50 ans, d'alerter les Français sur ce sujet. Nous avons été beaucoup combattus pour l'avoir fait. Nous avons été traînés parfois dans la boue. Nous avons été accusés de choses éminemment diffamatoires et désagréables pour l'avoir fait. Par conséquent, oui, bien sûr, l'immigration est une problématique majeure dans notre pays. Mais plus largement, si vous voulez, et on en parlera peut-être tout à l'heure, quand j'ai dit nous sommes confrontés à un choix de civilisation en 2022, le choix sera un choix de civilisation. L'immigration est un des éléments, mais pas le seul.
Une problématique majeure parmi d'autres, donc. Cela dit, Éric Zemmour, pour le nommer une autre fois, vous propose un débat parce qu'il conteste justement votre diagnostic en affirmant quant à lui que ce n'est pas une problématique majeure, mais c'est la question fondamentale sur laquelle se joue l'avenir et l'existence même du peuple français. Il vous propose un débat pour en parler publiquement, pour confronter vos visions, parce qu'apparemment elles ne se recoupent pas. Accepteriez-vous de débattre avec lui bientôt, et sinon pourquoi?
Mais je débattrai avec Éric Zemmour lorsque il indiquera qu'il sera candidat à la présidentielle. Nous débattrons d'ailleurs avec tous ceux qui auront les 500 parrainages et qui seront candidats à cette présidentielle. Pour l'instant, Éric Zemmour est un candidat virtuel, même s'il en a la volonté, et par conséquent, ça n'est pas le moment.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent chez Éric Zemmour? Dans son livre, il met en avant, par exemple, le lieu où la famille Mohamed Merah a voulu l'enterrer et le lieu où ont été enterrés les enfants victimes de Mohamed Merah. Est-ce que ça vous choque?
Oui, il y a des choses qui me choquent, mais parce que je défends la liberté d'expression, je défends la liberté précisément d'exprimer propos qui heurtent, qui choquent, comme l'a d'ailleurs défini la Convention européenne des droits de l'homme. Mais oui, pour répondre à votre question, évidemment, ce propos me choque, d'autant que nous savons très bien pourquoi ces enterrements ont eu lieu en Israël, comme nous savons pourquoi Ilan Halimi a été enterré en Israël. C'est parce que les familles craignaient, et elles avaient raison d'ailleurs, que les tombes soient profanées. Je vous rappelle que la stèle Ilan Halimi a déjà été profanée à plusieurs reprises.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la mutation démographique de la France, de la multiplication de zones de concentration ethnique très marquées, de la partition du territoire, on parle des séparatismes. On a aussi vu à Marseille la multiplication de quartiers où il y a des zones de non-droit qui se multiplient, où il y a des checkpoints, où l'autorité de l'État est contestée. Est-ce que la reconquête de ce qu'on a appelé des territoires perdus de la République peut s'opérer sans violence? Est-ce qu'en dernière instance, il y aura un choc dans la reconquête de ces territoires?
Je suis convaincue qu'elles peuvent s'exercer sans violence. Et je souhaite qu'elles le soient, évidemment. Voilà, mais nous ne reculerons pas devant les provocations, si vous voulez. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où la loi est exprimée, où la volonté politique est exprimée très clairement, ceux qui aujourd'hui créent la perturbation, créent le chaos, cesseront de le faire. J'en suis absolument convaincue. Pour peu que, encore une fois, l'on donne les moyens à nos forces de l'ordre de pouvoir rétablir l'ordre dans ces quartiers. Je ne crois pas du tout, pour tout vous dire, puisqu'on va aller au bout de votre pensée, je ne crois pas du tout que la guerre civile est inéluctable, comme le disent certains. Je ne le pense pas du tout. Et tout le monde, l'objectif de ma candidature, c'est précisément d'éviter que la situation ne s'aggrave en prenant des décisions en même temps fermes et rapide.
Donc il n'y aura pas d'épreuve de force dans certains quartiers, dans certains lieux. Dans cet esprit, cela dit, une deuxième question en fait, mais qui est dans cet esprit véritablement. Bernard-Henri Lévy, que nous recevions il y a quelques jours, dit ce qui distingue aujourd'hui la France, c'est la France généreuse, et de l'autre côté la France ouverte, et de l'autre côté la France haineuse et du repli. Et vous affirmez de votre côté, dans Le Figaro il y a quelques jours aussi, il y a ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Est-ce que cette manière de se représenter le débat politique, c'est-à-dire d'un côté nous croyons à la France, vous n'y croyez pas, de l'autre vous êtes la haine, nous sommes l'ouverture. Est-ce que chacun ne s'enferme pas dans un amour de la France, il réclame le monopole sur l'amour de la France? Est-ce que c'est pas une psychologie de guerre civile que d'exclure l'autre camp de l'amour de la France et de la croyance à la France?
Non mais ça n'est pas du tout ce que je fais, si vous voulez. D'abord permettez-moi de vous dire qu'il n'y a de preuves, il n'y a d'amour que de preuves qu'on en donne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos dirigeants n'ont pas apporté beaucoup de preuves de l'amour qu'ils portent à la France. Mais quand je dis qu'il y a ceux qui ne croient plus en la France, certains peuvent l'aimer et ne plus y croire.
Et croire
qu'en réalité, l'avenir de la France passera par des instances supranationales, passera par l'effacement de son identité, passera par l'effacement de ses frontières, passera par cette ouverture dont parle BHL, mais qui est une ouverture qui entraîne la disparition. Donc, aimer la France et prendre le risque de la voir disparaître est tout de même assez contradictoire.
Une dernière question avant de passer la parole à Dimitri Pavlenko. Une question toute historique, tout simplement. Parmi les hommes politiques relativement récents dans l'histoire de France, donc pas Jeanne d'Arc nécessairement, pas Clovis, y en a-t-il un ou une que vous admiriez particulièrement, une figure relativement contemporaine que vous admiriez parmi les grands hommes politiques des 50 dernières années en France?
Écoutez, encore une fois, vous savez que j'ai eu souvent l'occasion de dire ce que je pensais du général de Gaulle, de dire je suis gaullienne et pas gaulliste. Mais il est sûr qu'il a structuré, si vous voulez, notre République. Il a structuré l'idée que la France devait être une nation et rester une nation souveraine et indépendante. Il a défini les relations internationales devait poursuivre la France, en disant la France n'a pas d'alliés permanents ou d'amis permanents, elle n'a que des intérêts permanents, reprenant d'ailleurs le propos de Lord Palmerston. Mais donc, si vous voulez, j'ai la même vision de ce que doit être la France que celle qui a été exprimée par le général de Gaulle, même si encore une fois je ne partage pas tout de son aventure politique, puisque vous le savez, il reste l'écueil de la manière dont les harkis pendant la guerre d'Algérie ont été traités par son pouvoir.
Marine Le Pen, changeons un petit peu de terrain dans le registre économique. Votre programme, vos propositions ont un peu bougé, on l'a vu ces six derniers mois. Vous considérez qu'une dette, ça se rembourse, la dette Covid devrait être remboursée.
Je n'ai jamais dit l'inverse, jamais.
Oui. Enfin, vous dites pas d'austérité budgétaire. Non. Et il y a cette interrogation sur cette idée que vous avez défendue depuis plusieurs années, le retour à la retraite à 60 ans. Très concrètement, est-ce que vous maintenez aujourd'hui cette proposition, Marine Le Pen?
Oui, je maintiendrai le retour à la retraite à 60 ans. Avec 40 annuités. C'est marrant parce que jamais on ne va au bout. Quand on m'interroge sur la retraite à 60 ans, on ne dit jamais avec la condition des 40 annuités. Et c'est pourtant absolument essentiel parce que la retraite à 60 ans, ça ne veut, si je puis me permettre, rien dire si on n'appuie pas cet âge sur 40 annuités.
Donc si à 60 ans, on n'a pas ces 40 annuités, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on continue à travailler jusqu'à ce qu'on ait ces 40 annuités. Et c'est bien le problème d'ailleurs. Parce que si on met la retraite à 65 ans, alors, à ce moment-là, on arrivera à des gens qui continueront à travailler à 70, 72, 75 ans, voire. Est-ce que c'est raisonnable? Ou 77, est-ce que c'est raisonnable? La réponse est non. Si vous voulez, je crois qu'il est raisonnable aujourd'hui, au moment où la majorité des jeunes, enfin la moyenne des jeunes, entrent sur le marché du travail à 24 ou 25 ans, ont leur premier emploi réel à 24-25 ans, de limiter, encore une fois, l'âge de départ à la retraite à 60 ans, pour peu que l'on ait 40 annuités.
Donc dans votre schéma, quelqu'un qui commencerait sa carrière à 25 ans sans discontinuité partirait à 65 ans.
Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que quand on part en général à 25 ans, c'est qu'on a fait des études supérieures et que donc on n'a pas porté des pierres, si vous voulez, et qu'il est assez naturel d'imaginer que celui qui a porté des pierres toute sa vie ou qui a été plâtrier, eh bien, a plus besoin de partir à la retraite à 60 ans que quelqu'un qui est avocat ou comptable et qui lui, parce qu'il a fait des études, effectivement, pourrait partir un peu plus tard à la retraite.
Vous proposez également de renationaliser les autoroutes mises en concession depuis 2006. Bruno Le Maire estime que casser ces contrats coûterait 40 milliards d'euros. Comment financez-vous cela, Marine Le Pen ?
En réalité, ça va coûter, en argent déboursé, 5 milliards d'euros, puisque ces entreprises ont 35 milliards de dettes. Hein. Bon, donc ça ne coûtera pas, on ne sera pas obligé de sortir du budget 40 milliards. Mais surtout, ce sont des activités extrêmement rentables. Or, les péages ont augmenté de plus de 20% en 10 ans. Donc, voilà des biens qui appartiennent aux Français. Ils en ont financé la construction. On les a vendus pour un prix dérisoire au moment...
Pas vendus, mis en concession.
Oui, d'accord.
Enfin, c'est une délégation de service public.
D'accord, d'accord. Okay. On les a mis en concession
pour une
somme dérisoire, 14,8 milliards, alors même que ils étaient finis d'être payés, c'est-à-dire au moment où ils devenaient rentables. Ils ont une rentabilité de 20 à 24%, ce qui est absolument considérable. Et le fruit de cette rentabilité, eh bien, on en a privé les Français. Et de surcroît, on fait augmenter les péages dans des proportions qui sont aujourd'hui inadmissibles parce qu'elles pèsent sur le pouvoir d'achat des Français. Donc oui, je crois que nationaliser les concessions d'autoroutes est une bonne chose, et parallèlement, parce que je crois qu'il y a un équilibre aussi dans les mesures, je suis, vous le savez, pour la privatisation du secteur public de l'audiovisuel, parce que là encore, le pouvoir d'achat va pouvoir augmenter pour les Français puisqu'ils n'auront plus à payer la redevance télévision, mais surtout parce qu'on est une grande démocratie et on n'a pas besoin, à part un audiovisuel pour l'outre-mer et un audiovisuel pour que la voix de la France dans le monde continue à porter, on n'a pas besoin d'avoir un service public de l'audiovisuel aussi important.
Madame Le Pen, comme vous êtes attachée à la précision comme nous et que vous m'avez interpellée sur le nombre de députés RN présents, je vous confirme que lors du 11 mai 2021, je faisais référence à ce vote en première lecture sur le pass sanitaire, il n'y avait pas de députés RN, mais à votre décharge, le vote du 25 mai 2021, Monsieur Chenu et Monsieur Bild étaient présents. Voilà pour précision, ouais. Mais nous ne sommes pas dans les comptes, je voulais simplement vous interpeller sur la position de vos députés.
Vous voyez, cet échange démontre un petit peu la vacuité de ce type de débat.
Il montre la précision des faits quand il y a des faits par rapport aux paroles.
Dernière question très concrète, Marine Le Pen, c'est aussi une question d'actualité. On voit que les tentatives de la traversée de la Manche depuis la France vers le Royaume-Uni par des clandestins sont en forte augmentation. Les Britanniques nous le reprochent, menacent de couper les subventions prévues dans le cadre de l'accord du Touquet signé en 2003. Qu'est-ce que vous répondriez aujourd'hui à Boris Johnson si vous étiez à la tête de l'État ?
Je lui répondrais que je vais moi-même maîtriser à nouveau les frontières françaises et que donc le problème de Calais sera un problème du passé. Voilà, parce que la réalité, elle est là, c'est que nous devons chacun de maîtriser nos frontières, car si nous ne le faisons pas, eh bien nous retrouvons avec des points de fixation qui deviennent des sujets de tension entre nations qui sont traditionnellement et historiquement des alliés.
Et pour conclure sur votre stratégie, Marine Le Pen, certains vous contestent la normalisation, les langues se délient, affirmant que vous n'êtes plus disruptif, transgressif, bref, que votre ressort est usé et cassé. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ?
Mais je leur réponds que je me prépare à gagner la présidentielle et que par conséquent, je m'oblige à présenter des propositions qui soient applicables dès mon arrivée au pouvoir. Je ne suis pas dans une candidature de témoignage. La caractéristique d'une candidature de témoignage, c'est qu'on ne s'intéresse pas trop de savoir si les mesures que l'on propose sont applicables ou ne sont pas applicables. Moi, je veux que juridiquement et politiquement, elles soient applicables parce que c'est ce qu'attendent les Français.
Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir répondu à l'invitation d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée. Merci à Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté pour vos questions. Dans un instant, reste avec nous le débrief de cet entretien avec Emmanuel Dutheil et Louis Dragnel, nos chefs du service économique et politique. À tout de suite.